Mon cher Blaise, ce matin à la une en Israël, on accueille Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Je vous laisse en compagnie de notre invité.
Bonjour Raphaël Jérusalmi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors on le disait, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un changement radical de stratégie militaire à Gaza, une opération baptisée Chariot de Gédéon qui prévoit donc l'occupation et le maintien des forces israéliennes dans les zones conquises, abandonnant la tactique des raids temporaires. Pour commencer, Raphaël Jérusalmi, selon vous, est-ce la bonne solution pour se débarrasser du Hamas et récupérer les otages ?
Alors non, et pour deux raisons. La première, c'est que les otages n'ont pas le temps d'attendre que se déploie une opération d'une telle ampleur. Ça va prendre des semaines, d'autant plus que cette opération ne commencera qu'après la visite prochaine de Donald Trump au Proche-Orient. Donc on parle en fait de 2 à 3 mois avant qu'on puisse voir le moindre fruit de cette opération. Ces 2 et 3 mois, les otages ne les ont pas. Ils sont, on le sait maintenant, maltraités. Certains succombent probablement à leur mauvais traitement. La seconde raison pour laquelle cette opération me paraît peu probable pour une vraie réussite, c'est qu'elle va exiger énormément de moyens et de troupes à un moment où Tsahal doit être présent et fort sur d'autres fronts, sud-Liban, sud de la Syrie, et même la Judée-Samarie qui est explosive. Alors comment envoyer tant de troupes à un moment donné où on en a besoin ailleurs? C'était une bonne opération à un autre moment, s'il y avait des otages encore en bonne santé et si on n'avait pas besoin de ces troupes par ailleurs, on risque de commettre une erreur qu'on a commis le 7 octobre en fin de compte, c'est-à-dire avoir déployé beaucoup trop de troupes vers un théâtre d'opération qui était à l'époque la Judée-Samarie et on avait délaissé Gaza. Là, c'est l'inverse, on se concentre sur Gaza, mais on va aussi au prix de d'autres théâtres d'opération, sans compter évidemment la menace iranienne, la menace houthi, qui donc vont demander énormément de moyens, de munitions aussi.
Oui, vous parlez de cette mobilisation militaire. Il y a eu une vraie question et un vrai débat en Israël en ce moment. C'est oui ou non, doit-on exempter de service les ultra-orthodoxes?
Oui, alors ma réponse c'est non, bien sûr. Il n'y a aucune raison pour laquelle les ultra-orthodoxes ne devraient pas servir dans l'armée. Surtout que c'est une mitzvah primordiale. Là, c'est la défense de la Terre Sainte, c'est la défense du peuple juif qui est le détenteur de la Torah, et donc c'est une mitzvah. Il y a d'ailleurs, il faut pas l'oublier, une grande majorité de personnalités religieuses et de rabbins normaux, entre guillemets, qui sont dans l'armée, qui encouragent la jeunesse à s'engager dans l'armée, avec même des unités spéciales pour les religieux qui sont des unités d'élite. Et donc cette frange ultra-orthodoxe, ce sont des traîtres à la patrie. En plus, on vient de parler justement du problème de manque de troupes. Il y a un manque cruel de milliers et de milliers de soldats en ce moment, et c'est pas juste, de toute façon, que une seule partie seulement de la population soutienne ce fardeau.
Alors, on va revenir sur cette annonce. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, de son côté, a affirmé qu'Israël ne se retirera pas des territoires conquis, même en échange d'otages, une position qui a provoqué la colère des familles des 59 otages encore détenus. On se doute que les familles d'otages sont en colère. Comment est-ce que le peuple israélien vit ces annonces de la part du ministre des Finances et du Premier ministre?
Alors, d'après les sondages récents, le peuple israélien est de plus en plus en faveur de mettre la libération des otages comme objectif numéro 1 avant le démantèlement du Hamas. Donc M. Smotrich va à l'encontre de l'opinion publique générale israélienne, mais c'est pas nouveau de sa part. Il semble avoir quelque chose contre les otages. Quelque chose lui déplaît parce que ses déclarations sont irresponsables en plus, c'est dangereux. En pleine négociation pour les otages, un ministre du gouvernement admet que les otages ne sont pas aussi importants que le reste de son agenda. L'agenda de M. Smotrich, on le connaît, c'est celui aussi de M. Ben-Gvir, c'est de réoccuper entièrement la frange de Gaza, de réinstaller des implantations comme il y en avait avant l'évacuation ordonné par Eric Sharon en 2005. Et donc, lui, il a un agenda complètement différent qui, en fait, revient à sacrifier les otages pour une reconquête de Gaza.
Mmh. Le porte-parole de Tsahal, Effie Dafrin, le général de brigade, a lui précisé que l'objectif de l'opération était d'accroître la pression sur le Hamas pour l'amener à négocier la libération des otages. On sent tout de même une sorte de dissension entre l'état-major et le gouvernement, malgré le fait que l'état-major soit soumis au gouvernement, non ?
Oui, l'état-major est soumis au gouvernement, mais d'un autre côté, c'est une institution professionnelle. Donc, je prends toujours l'exemple d'un médecin. Si vous êtes médecin et que vous demandez à votre patient de subir une intervention chirurgicale et que votre patient veut un cachet d'aspirine, vous allez quand même lui rappeler que c'est important d'avoir une intervention chirurgicale. Vous êtes obligé de donner votre avis professionnel sur le plan de la sécurité de l'État, même s'il s'oppose à celui du gouvernement. C'est sûr qu'en fin de compte, en dernière instance, l'armée doit obéir au gouvernement puisque nous sommes dans une démocratie et que sinon on deviendrait une dictature militaire. Mais pour l'instant, il y a un désaccord et d'un autre côté, même si le gouvernement est élu et qu'il a le pouvoir, il devrait avoir une oreille plus attentive à ce que disent les experts, surtout lorsque c'est un gouvernement qui est composé de pas mal de personnages qui n'ont même pas fait l'armée et qui ne comprennent rien à la stratégie militaire. Donc d'un côté, il y a le politique, le pouvoir du gouvernement. D'un autre côté, il devrait y avoir plus de concertation. On n'a jamais vu dans aucune guerre d'Israël à ce point-là des altercations violentes d'ailleurs cette semaine entre les chefs de l'armée et les chefs du gouvernement.
Comment l'expliquer justement ces altercations et ce revirement de situation, de position de la part du gouvernement sur Gaza ?
Alors, les motivations du gouvernement sont diverses. C'est un, effectivement, avoir mis en objectif primordial la victoire sur le Hamas. Le chef de l'état-major a prévenu que cette nouvelle opération pouvait mettre en danger les otages. Elle était très risquée, mais d'un autre côté, il faut peut-être, à son avis d'ailleurs, la tenter, parce que c'est en fait une opération de la dernière chance. Sur le plan gouvernemental, si vous demandez à l'opposition, le gouvernement lance cette opération pour éviter de tomber. Ça retarde un peu, si vous voulez, l'échéance d'élections possibles. Si vous demandez au gouvernement lui-même, c'est la seule solution en ce moment. Une chose est certaine, le Hamas l'a déclaré ce matin, le Hamas ne veut plus négocier sur les libérations d'otages en réponse justement à cette opération qui vient d'être annoncée. Et donc, on n'a plus le choix que d'intervenir militairement, puisque diplomatiquement, tout est coincé.
Mmh. Raphaël Jérusalmi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements de Tsahal. À bientôt.
À bientôt.